Eh bien, bonjour, merci d'être venu pour cette conférence un peu particulière, car le plateau d'invités qui sont là, sauf un, ils ont tous imaginé la fin du monde, ou l'après-fin du monde, ou juste avant la fin du monde, et on va pouvoir en parler avec eux. Sauf un, je vais le dénoncer tout de suite, c'est Laurent Genefort. Laurent Genefort, vous le connaissez peut-être parce qu'il a notamment travaillé sur le cycle d'Aumale. On va parler aussi de Memoria. Et il va nous expliquer pourquoi, lui, la fin du monde, c'est pas son truc. Pourquoi, voilà, il a pas du tout envie de tuer l'humanité ou de tuer la Terre. Voilà, il nous en parlera tout à l'heure. Juste à ses côtés, Léo Henry, on va notamment parler de Rouge Gueule de Bois avec... C'est compliqué parce que c'est un spoiler, mais en même temps, c'est sur la quatrième de couverture.
Oui, mais c'est pas grave. On peut dire qu'il y a la fin du monde.
Bon, voilà, dans son livre, il y a la fin du monde, à la fin. Voilà. Donc voilà, comme ça, on a tué le suspense. Mais c'est une bonne manière de finir, oui, comme le dit Arnaud. Juste à côté, Jérémy Royer, qui nous a fait la traversée. La traversée avec une fin du monde. On est juste après, avec un homme seul, après la fin du monde. Enfin, pas tout à fait si seul que ça, mais...
Jamais seul.
Et voilà, j'ai encore mis la fin. Oh là là, c'est terrible. Un petit nouveau, Camille Le Boulanger, qui vient de signer son premier roman chez La Talente, qui s'appelle Enfin la nuit.
Oui, bonjour.
Et lui aussi, Tout le monde meurt. Ça va être gay, hein, vous allez voir.
Pas tout le monde.
Ouais, enfin, beaucoup quand même.
Non, tout le monde n'est pas mort quand même.
Arnaud Boutle, qui est juste à côté, on va parler de Entre les ombres. Et lui aussi, il n'y a plus qu'un homme.
Ouais, il n'y a plus qu'un homme. Mais vraiment, il n'y en a plus qu'un. C'est pas l'espoir d'en retrouver un autre à côté. Il y en a vraiment un. Voilà. Ouais.
Donc, chez lui, on meurt moins, mais c'est parce qu'il n'y a plus qu'une personne. Donc, c'est plus difficile pour le coup. Et le dernier, hop, qui est juste à côté de moi, Vincent Gessler. Vincent Gessler qui a aussi quelque chose post-apocalyptique dans Cygnis, c'est-à-dire que c'est après la fin du monde. Ça m'arrange que ce soit avant, parce que du coup, là, c'est pas un spoiler.
Voilà, puis un peu plus de gens et des robots.
Voilà, et des robots. Et des robots qui meurent aussi.
Ouais.
Ouais, c'est important. On va tous discuter avec eux de comment est-ce qu'ils ont mis un petit peu en scène ces histoires de fin du monde et qu'est-ce qui les a intéressés. Souvent, c'est pas tant l'apocalypse qui les a intéressés, c'est souvent ce qu'il y a après ou juste avant avec des récits plutôt sur l'humain, comment on survit à la fin du monde ou comment on s'y prépare. Peut-être la première question avec justement Vincent, décris-nous un petit peu ton univers dans Cygnis, univers post-apocalyptique.
Voilà, donc je crois que ce qui est important avec un univers de fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est pas la fin de l'humanité, sinon je crois qu'il n'y aurait pas grand-chose à raconter ou alors des choses sur les post-humains. Mais ce que je trouve intéressant de traiter dans un récit post-apocalyptique, donc après l'apocalypse, donc après une catastrophe qui a ravagé les normes sociales qu'on connaît, qui les a renversées, balayées. Dans le cas de Cygnis, il s'est encore déroulé quelques centaines d'années, qu'on suffit à mettre quelques couches sédimentaires sur les immeubles, les vieilles voitures, les technologies. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ressortir en filigrane notre humanité, notre société, ce qui reste de nous, ce qui reste de la mémoire, et de faire un travail sur la mémoire et l'identité, tout en ayant fait table rase d'un certain nombre de choses qu'on connaît déjà. Et donc, on retrouve cette opposition entre... que j'ai déjà entendu dans plein de tables rondes, comme on parle de l'histoire beaucoup depuis 2-3 jours. Il y a ces thèmes qui sont revenus, qu'on a pas mal ressassés, et notamment cette espèce de polarisation entre une nature humaine et puis une culture qui véhicule différentes formes. Alors, c'est toujours cette espèce de question de savoir si est-ce qu'il y a une nature humaine invariante qui s'exprime différemment à travers le temps, les cultures, ou est-ce que c'est de la pure norme culturelle soumise au changement et qu'en fait on n'aurait rien de commun avec des gens d'il y a 2 ou 3 000 ans. Donc, pour moi, l'univers post-apocalyptique, il permet de redéfinir ça, de redéfinir ses cartes et de proposer alors à la fois cette réflexion-là, cette prise de recul, mais dans le futur, et une charge poétique très très forte, parce que je trouve qu'il y a une véritable, et je pense que vous ne me contredirez pas, une véritable esthétique de la ruine et de la trace.
Vous pouvez réagir les uns les autres. Non. Oui. Non. Non,
bah pour ce qui est de l'esthétique de la ruine, je peux. Enfin, on pourrait copier-coller quasiment ton discours avec mon album. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre ton roman et l'album que j'ai produit sont sortis quasiment en même temps. Entre les ombres, c'est l'histoire de deux personnages finalement. Tout à l'heure on disait il y a un homme. Ouais, effectivement il y a un homme. Mais en fait il y a deux personnages, il y a un homme et il y a une ville. Cette ville, c'est une ville imaginaire telle que n'importe qui ici peut imaginer ce qu'est une ville nord-américaine avec un downtown et des tours immenses de plus de 100 étages. Cette ville, elle a le rôle du décor, bien évidemment, mais elle a aussi un rôle symbolique, quasiment de maïeutique pour le personnage, c'est-à-dire de réussir à le faire suffisamment évoluer après cette fin du monde pour que non seulement il trouve encore cette petite trace d'énergie qui fait qu'il ne va pas se tirer une balle, mais encore qu'il trouve le moyen de la quitter, cette ville. Parce que je propose un cadre très calme. Cette ville, effectivement, s'il n'y a plus personne, vous allez me dire, c'est pas très compliqué, ce soit très calme. L'idée, c'était... oui, effectivement, il y a eu l'apocalypse. Mais à partir du moment où il n'y a plus les hommes, cette zone qui a été bâtie devient comme une espèce de jardin. Et mon personnage principal, là-dedans, il se retrouve plutôt à l'aise. Il n'a pas de problème pour s'abriter, il n'a pas de problème pour trouver à manger, il n'a pas de problème même pour se distraire. Je veux dire, toutes les bibliothèques lui appartiennent, même tout, le musée lui appartient. Il y a bien un moment d'ailleurs où il se dit « Ah oui, tiens, je vais me faire plaisir ». Et puis il va piquer les tableaux qui l'intéressent et puis il les installe chez lui. Entre guillemets, chez lui, c'est Ikea, hein, parce que tant qu'à faire, autant profiter de tous les meubles qui l'intéressent aussi, quoi. Bah ouais, en même temps. Et d'une certaine façon, voilà, l'idée, c'était de travailler sur les fantasmes, de qu'est-ce qui peut être vachement rigolo, entre guillemets rigolo, mais agréable, on va dire, dans le fait d'être seul et d'avoir la disponibilité complète de notre société consumériste, hein, juste là, il n'y a plus qu'à tendre la main. Et puis l'autre côté, c'est comment finalement, si on n'a pas les problèmes de survivance physique, ils sont où les problèmes? Ben, les problèmes, ils sont psychiques. Et cette histoire, c'est d'abord une histoire de solitude. Ce que j'ai voulu faire au final, c'était d'abord une histoire de Robinson. Mais pas un Robinson qui va lancer des SOS, il n'y a pas de SOS possible à lancer, parce qu'il n'y a pas de récepteur. Mais bien évidemment de quel est le moment où la mémoire joue finalement son vrai rôle, qui n'est pas simplement de vivre dans un passé avec des bons souvenirs, parce que quand on passe dans tel quartier, on se souvient, bah oui, tiens, là, j'avais fait ça, etc. Et c'était sympa, mais cette histoire apocalyptique, qui est tout à fait escamoté à l'origine, hein. On se rend compte au départ, il le dit, après l'apocalypse, je me suis mis à la pêche, bon, très bien. Cette histoire apocalyptique, qu'est-ce qu'elle a eu réellement comme impact sur lui? Parce qu'il l'a intériorisé, il l'a quasiment masqué, et puis à un moment donné, c'est obligé de ressortir, ça. Et au moment où ça ressort, soit il en meurt, soit il y survit. Et voilà, et c'est ça l'histoire, c'est soit il en meurt, soit il y survit. Pas vous raconter la fin.
Est-ce que c'est pas aussi des retrouvailles finalement avec lui-même?
C'est une totale retrouvaille, non seulement avec lui-même, mais aussi avec le monde de façon globale. C'est-à-dire qu'il vit dans les vestiges. Il vit, quand tu parlais d'esthétique de la ruine, c'est vraiment ça. Il vit dans des ruines, et les ruines peuvent être très belles, mais les ruines, c'est aussi un cimetière. Et à un moment donné, entre les ombres, le titre le dit, quoi, les fantômes deviennent trop présents. Il faut quitter ça. Il faut avancer. Sinon, on meurt.
On parle d'évolution de personnage. Jérémy Royer, comment est-ce que votre personnage dans la traversée évolue, justement, dans ce pays complètement dévasté?
Alors moi, la catastrophe en elle-même, c'est juste un arrière-plan. C'est juste pour raconter une situation. Et ce personnage, en fait, il se construit par rapport à une enfant qui recueille, en fait, qui se retrouve toute seule, et il se construit par rapport à elle. Et ce cheminement, en fait, ils vont parcourir un pays dévasté, ils vont rencontrer plusieurs personnes assez proches de la folie. Et
ce chemin, en fait, il le parcourt pour retrouver sa femme et sa fille dans une ville. Mais il le parcourt en se construisant, finalement, avec peut-être pas ou peu d'espoir de ce futur, justement, ou de cet avenir qu'ils ont avec ce pays dévasté et en rencontrant les personnes un peu décalées, un peu folles.
Camille Le Boulanger, c'est un petit peu la même question, parce que même si on est en pleine apocalypse dans votre livre, même si le personnage va rencontrer d'autres personnes, on le sent vraiment seul d'un bout à l'autre du bouquin quasiment. C'est ce que vous vouliez ?
Avec Enfin la nuit, pour moi c'était plutôt qu'une histoire de fin du monde en fait. La catastrophe ou l'événement plutôt, parce que c'est pas vraiment une catastrophe, et pour moi était vraiment très périphérique en fait. C'était un prétexte à une expérience de redéfinition des rapports. On débarque dans ce monde-là, donc qui est pas particulièrement futuriste comme dans Cygnis, qui est plutôt contemporain, où sous prétexte que voilà que le ciel s'est allumé et que le monde tel que nous le concevons a été bouleversé, ça donne une occasion d'essayer autre chose peut-être. Alors il peut se trouver que effectivement les rapports sont pas si bouleversés que ça et que il y a des fondamentaux qui restent, comme le besoin de rencontrer des gens, les rapports conflictuels qu'on peut avoir, etc. Mais c'est vraiment, après, pour moi c'est pas tant un roman apocalyptique qu'une ENDE, qu'une expérience de mort imminente. La société est pas loin en fait, on n'est pas encore tout à fait dans une société détruite, complètement ruinée, où il n'y a plus d'espoir. Les gens sont encore là, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont encore vivants. On peut essayer de construire autre chose. Est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas ? Pour moi, c'était un petit peu l'idée du livre, quoi.
Et il y a une notion d'espoir qui est importante, parce qu'on a l'impression que... Alors, c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant Enfin la nuit, quelque chose de plutôt désespéré, finalement. Chaque tentative échoue sans tout raconter. Cette absence d'espoir, et c'est une question pour tous les trois, c'était quelque chose d'important dans votre écriture, hein. Ce rapport à l'avenir, finalement.
Alors, je vais répondre pour moi, en premier lieu. Pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir, au contraire, il y est. Quelque part, c'est peut-être la seule chose qui pousse les personnages à avancer. Mais pour moi, ce qui a un manque, c'est un manque de repères et donc de but, d'objectif au personnage, parce que c'est ça qui déclenche cette errance, etc. Et la solitude du personnage vient de cette absence d'objectif, pour moi.
Oui, alors l'idée de l'objectif, effectivement. Pour ce qui est du personnage d'Entre les ombres, c'est pas tant une question d'espoir, finalement, qu'une relation quasi physique à la vie. C'est-à-dire que faut un sacré courage pour se suicider. Quand t'es le dernier survivant, en plus, vous imaginez bien. Il finit effectivement par trouver une sorte d'espoir en quittant les lieux où il se trouve, qui étaient des lieux où la vie était facile. Mais la vie n'était pas si facile au sens où il vivait avec les morts. Et à un moment donné, effectivement, cette relation à la vie était plus possible. Il y avait trop de crânes, il y avait trop de squelettes, il y avait trop de mauvais souvenirs. Et il fallait quitter ça. Physiquement, il en ressent le besoin. Et par le fait de partir, je dirais qu'à la limite, c'est sur la dernière image de l'album, par le fait de partir, là, il y a un espoir. Mais il est quasiment extérieur au personnage. C'est pas un moteur pour lui. Le moteur, il est quasiment animal au final. Mais un homme tout seul, il a plus de société autour de lui pour le cadrer et en faire encore un humain très longtemps. Et de ce fait, c'est cet aspect qui n'est pas vraiment social, qui est mis en scène. Et oui, à la fin, mine de rien, il retrouve une grosse part d'humanité par le fait de partir. Et là, cet espoir-là, c'est une ouverture. J'ai pas voulu raconter la suite parce que ça m'intéressait pas. Mais on pourrait imaginer quelque chose derrière, oui.
Jérémy Royer.
Mais dans mon personnage, en tout cas, c'est ce qui peut le faire avancer, c'est l'espoir. Et c'est, sans vous dévoiler la fin, ce qui serait idiot, c'est justement l'espoir de retrouver sa famille, l'espoir de, d'avoir un avenir dans un monde dévasté, peut-être, qui le fait avancer. Justement, c'est un, peut-être idiot, mais c'est l'espoir qui fait vivre. Enfin, voilà, c'est, on le dit, et donc, dans la BD, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais essayer de montrer, justement, que, qu'il y ait quand même un espoir. Quoi. Après, sans vous dévoiler la fin, peu importe ce qui arrive, mais c'est une ligne de conduite que j'ai eue à dans l'album.
Bon, là, on a été après la fin du monde, après l'apocalypse. On a été pendant. Avec Léorie, on va être juste avant. qu'est-ce qui vous intéressait de travailler dans ce roman et d'être, de se placer justement avant?
En fait, je ne pense pas que ce soit vraiment un récit de fin du monde. C'est la fin. Enfin, voilà, c'est utiliser la fin du monde pour, comme une espèce de métaphore et raconter en réalité la fin d'un monde. Et. Enfin voilà, c'est la fin de plusieurs mondes, c'est, et c'est essentiellement, enfin avant tout, je pense que la fin du monde, enfin un des sens que ça a en tant que métaphore, c'est juste le fait qu'on est à peu près tous certains qu'on va crever et que, à moins d'avoir des perspectives de réincarnation, ce qui n'est pas vraiment dans notre culture, en réalité, à un moment, le monde s'arrête pour nous et le monde, voilà. Et il y a aussi le fait que, enfin voilà, que les fins du monde, c'est aussi des passages. Mais moi, je trouve ça assez marrant dans la description des livres. Je suis désolé à part le livre de Vincent, je les ai pas lus, mais qu'on soit parce que je sais pas comment dire, l'intitulé Fin du Monde, pour moi, le truc que ça m'évoque, c'est la guerre des mondes, et c'est y a des gros trucs qui arrivent, et ce plaisir un peu de petit enfant de défoncer des grandes cités, et d'écraser des hommes, et c'est un truc que la science-fiction fait vachement bien, qui a un genre intéressant. Et ce que je trouve rigolo, c'est que c'est des fins du monde assez feutrées, en fait, et dans les 4 cas, c'est en réalité utiliser la fin du monde comme un passage en réalité, puisque le monde n'a pas, enfin la fin du monde n'a pas eu lieu, puisque le monde persiste au-delà, et donc c'est soit une redistribution des cartes de l'humanité, soit une destruction presque complète de l'humain, mais en réalité, enfin voilà, même quand bien même le dernier homme meurt, le monde y continue, et c'est pas un... alors qu'effectivement quand nous on meurt, enfin notre monde s'arrête et tout s'arrête, enfin les plantes s'arrêtent et le...
On est bien d'accord que la fin du monde c'est un mythe.
Oui, bien sûr.
Si on veut raconter une histoire, il faut bien qu'il s'y passe quelque chose.
Ouais, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ce traitement un peu 19e ou début de siècle de la fin du monde, où on va tout casser, alors que ce soit pour édifier, ou même ce que Stephen King fait avec le fléau, comme ça, où pendant 600 pages, il décrit les gens qui s'entretuent, les villes qui brûlent, et c'est singulièrement absent. Mais parce que je pense qu'il y a aussi ce sentiment qu'on est dans le monde d'après la fin du monde aussi. Enfin, je pense aussi qu'il y a ce... qui fait qu'en ce moment, on écrit des livres où la fin du monde a déjà eu lieu. Il y a eu le McCarthy il y a quelques années, qui a eu un immense succès et qui est vraiment un livre de fin du monde et qui parle... Il fallait pas en parler. Ok. Enfin, voilà.
Mais est-ce que dans l'écriture de votre roman, vous aviez déjà l'idée de la fin? Est-ce que vous saviez que vos personnages, en bout de course... C'était ça.
Ben, le sous-titre, c'est « Dernier jour de Frederick Brown », donc le personnage va vers la fin, et le monde va vers sa fin aussi. Après, voilà, en deux mots, j'ai utilisé la fin du monde, j'ai utilisé une fin du monde, une forme passée de la fin du monde, c'est-à-dire que c'est les années 60, donc c'est en gros la fin des années 60, de ce que les années 60 représentent comme mythe. Et c'est un sentiment qui était très présent dans les années 60, en fait, où il y avait cette idée que l'apocalypse nucléaire, enfin c'était la guerre froide, que l'apocalypse nucléaire pouvait avoir lieu n'importe quand, et ils avaient une espèce de mythe des 15 jours, quoi. Donc ça se déclenche et 15 jours après, il n'y a plus personne, quoi. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ça se déclenche, 15 jours après, il n'y a plus personne, et tout est aboli, en fait, au-delà même de. Enfin voilà, il demeure rien après.
Laurent, explique-nous pourquoi est-ce que toi, la fin du monde, ça ne t'intéresse pas en tant qu'écrivain?
Ça m'intéresse en soi. J'adore ce thème en tant que lecteur. C'est un peu pour rebondir sur ce que tu disais. Je crois que c'était Brown justement qui avait fait une short, enfin une nouvelle de une ligne qui était le dernier homme de la Terre se tenait dans une pièce et quelqu'un frappa à la porte. Et c'est ça, pour moi, l'essence du thème de la fin du monde. C'est la SF. C'est la magie de cette littérature, je trouve. On est dans une hypothèse complètement extrême, puisque l'histoire commence au moment où l'histoire devrait se terminer. Ben voilà, c'est la SF, c'est ça. Donc, en tant que lecteur, il n'y a rien de plus jouissif que de lire une histoire de fin du monde, finalement, je trouve. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que, enfin, la façon de il y a une façon globale et une façon de prendre le thème de la fin du monde et une façon extrêmement personnelle et intimiste de la fin du monde. Et j'avoue que je trouve la façon intimiste très intéressante et très moderne. Parce qu'effectivement, on parle du thème de la solitude. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait « L'homme qui n'existait plus », qui est une sorte de fin du monde à l'échelle individuelle, puisque c'est un personnage qui est le gérant d'une station, d'une sorte de station orbitale offshore, qui écrème les nuages d'une jovienne, d'une planète de type Jupiter. Et c'est une station qui doit être réformée. Donc les derniers équipages de maintenance partent. Et il reste quelques personnes, et le gérant a une sorte de malaise, et il s'endort, et quand il se réveille, il y a une caméra qui lui montre en fait que la dernière navette a explosé, et donc il est considéré, donc il devait faire partie de cette navette, enfin du dernier départ, et donc il se retrouve tout seul, comme justement le dernier homme sur la Terre, sur cette station spatiale entièrement vide, gigantesque, entièrement vide. Et donc on peut traiter, c'est une façon de traiter justement de la fin du monde sans en être une, mais de traiter en tout cas de la solitude ultime. Maintenant, sur le côté global, ouais, tu disais, tu parlais justement de la façon américaine, que c'est typiquement un thème américain de la guerre froide, où effectivement les Russes et les Américains pouvaient se foutre sur la gueule et raser le reste du monde sans aucun scrupule, et de effectivement raser la Terre entière, et ça a été à deux pas quand même. En
200 km en fait.
Ouais, et en fait, c'est arrivé en Europe, ça. Ce côté crépusculaire, il y a eu une littérature crépusculaire dans la SF française qui a été représentée par Jacques Spitz, qui n'a traité dans sa littérature quasiment que de fin du monde, finalement. Et il a totalement pressenti ce qui allait arriver, hein, qui était la Seconde Guerre mondiale. Et donc, oui, on pouvait imaginer dans ces époques-là réellement des catastrophes globales où tout le monde pouvait y rester. J'ai l'impression que la SF, elle a évolué avec son temps, et le thème est intéressant maintenant, comment il a pu évoluer maintenant que on a des petites apocalypses ciblées, des petites fins du monde à l'échelle d'espèces qui sont pas humaines, hein, qui sont des espèces animales, où on voit sous nos yeux disparaître des espèces qu'on a, il y a des espèces de félins qui sont en train de disparaître, qu'on a connues. Qu'on voit disparaître petit à petit. Il y a plein d'espèces qu'on connaît. Donc on voit comme ça des fins de monde, mais de monde au pluriel, des mondes qui se délitent. Je trouve que William Gibson, par exemple, c'est un bon exemple d'auteur qui a pressenti des fins de monde culturel aussi, de monde écologique, de monde qui se délite de notre vivant. Et je trouve que c'est une manière de... La SF, même si elle ne traite pas frontalement le thème en montrant réellement des hommes, genre le dernier homme sur la Terre, on voit quand même dans la SF la fin de plein de mondes différents, quoi. Donc, effectivement, je ne sais pas si je traiterai un jour du thème de la fin du monde avec genre le dernier couple, le dernier homme, etc. Mais en tout cas, la fin de monde ou la transition entre plusieurs mondes, la SF, elle est au cœur de ça, quand même.
Est-ce que c'est aussi parce que tu te places plutôt du côté du créateur d'univers dans lequel tu fais évoluer tes différentes histoires ?
Alors, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de space opéra, c'est l'essentiel de ma production, et c'est vrai que la notion même de fin du monde, elle n'existe pas dans ce cadre-là. La fin du monde, je pense qu'on peut réellement la traiter que dans la fiction spéculative ou la fiction intimiste. Mais c'est vrai que dans le cadre du space opéra, on peut pas. Alors, et c'est pour ça d'ailleurs que je me recentre. Mes prochaines productions vont être de la spéculative fiction, parce qu'on commence à être rattrapé, l'Occident, par la fin du monde est en train de nous rattraper là, mais par en dessous, j'allais dire, par l'économie, par voilà, par d'autres choses que les conflits mondiaux à coups d'ogives nucléaires.
Léo ?
Ouais, non, je vais juste dire une connerie, mais je me demande si, si la notion même de fin du monde, enfin, en réalité, c'est pas une notion qui est beaucoup plus théologique que scientifique.
Ça, c'est certain.
Et donc, qui fait que c'est assez déserté par la science-fiction qui se préoccupe de science et de. Parce qu'en réalité, je vois pas quelle notion scientifique ça recouvre la fin du monde. Et c'est assez intéressant de voir à quel point c'est anthropocentré en réalité la fin du monde. Puisque voilà, on dit une apocalypse, c'est quand on détruit toutes les cultures et on recommence. Quoi. Ça ressemble pas vraiment à une fin du monde. Quoi. Et puis il y a qu'à regarder quand vous sortez de n'importe quelle grande ville, un tronçon d'autoroute abandonné en l'espace de, je sais pas, de 6 mois, d'un an, il y a des herbes partout et on sait très bien que quand on aura balancé les bombes, on sera plus là, mais il y aura des cafards et il y aura des et ça roulera. Enfin, la planète restera bleue et enfin, on n'a pas de.
Vincent, tu voulais réagir.
Ouais, je voulais réagir. Théologique, je sais pas. Par contre, c'est l'occasion d'un temps d'arrêt, une fin du monde. On s'arrête et dans un monde comme le nôtre où les choses vont très très vite, changent très très vite. Eh ben, marquer ce temps d'arrêt, qui peut être. J'ai trouvé très bien ton exemple de base spatiale, où tout à coup, mais c'est l'équivalent, c'est la fin de son monde, il est plus relié à la civilisation, et il y a ce temps d'arrêt. Il y avait un motif qui me fait étrangement penser à ça, je me souviens d'un épisode de la quatrième dimension, où il y a un mec qui a un chrono, et qui peut arrêter le temps. Et à un moment, il décide de dévaliser une banque. Alors, il arrête le temps. Bon, d'abord, il va chez son boss, il ébouriffe les cheveux, il fait des trucs que vous pourrez faire, Léo. Et après, il se dit, bon, je vais dévaliser une banque, il empile les sacs d'argent dans son chariot, il le sort, son chrono tombe, il roule dessus, et il est prisonnier dans le temps. Et il y a ce temps d'arrêt. Et là, ça devient angoissant. Et cette espèce d'angoisse où il erre dans la ville, où il interpelle les gens qui sont comme des ombres, comme des... Ça pourrait même être des personnages statufiés par une explosion atomique, ça serait la même chose. Et il court, il appelle, et c'est la fin. Et c'est pour moi une image très forte, qui est vraiment la même que les images post-apocalyptiques. Et c'est le même vecteur de solitude qui est exploré. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à relier ça forcément à la religion ou aux sciences. C'est une histoire de temps.
Jérémy.
Juste pour appuyer justement ce qu'il disait, c'est que. On peut, oui, la fin d'un monde, on peut la voir vraiment dans l'explosion d'un monde. Mais ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que, justement, la fin d'un monde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit le voir, cette fin d'un monde ? C'est pour ça qu'il peut rester qu'une personne ou, justement, un groupe. Peu importe. Et juste aussi pour dire que, même s'il n'y a plus d'humains, le monde continue à vivre et ce n'est pas forcément la fin du monde. Et il y a un très bon livre, d'abord, sociologique, ça s'appelle Homo Disparitus. C'est expliqué par des scientifiques et une personne qui a fait des recherches qui explique justement il n'y a plus d'humains, du jour au lendemain, il n'y a plus d'humains sur Terre. Et qu'est-ce que devient la Terre ? Qu'est-ce que deviennent les océans, les animaux, les grandes villes, etc. Et c'est assez intéressant, justement, de voir, justement, ce point de vue-là, que le monde ne s'arrête pas quand il n'y a plus d'humains, justement, et que c'est forcément, comme on disait la dernière fois, peut-être un cycle de construction-destruction.
Arnaud ?
Non, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur le temps arrêté, le temps d'arrêt, et ce qui est finalement l'aspect le plus symbolique pour parler d'une fin du monde. Et effectivement, pour un individu, ça... c'est peut-être le phénomène le plus évident. Quand on parlait du point de vue de fin du monde en tant qu'apocalypse, on parle bien sûr... alors, il y a l'aspect théologique. Et en fait, c'est l'aspect commun, communautaire. Ce n'est pas un individu, dans ces cas-là, qui se retrouve confronté à une fin. C'est l'ensemble, c'est un ensemble. Et si les religions ont bien voulu nous donner ces concepts-là, c'était bien aussi pour que, du point de vue général, on puisse appréhender ça, quoi. Et qu'on soit plus simplement des individus, tous confrontés à notre simple idée de finitude. Et dans la religion catholique, la fin du monde est liée forcément au jugement dernier, et aux bienheureux qui iront rejoindre les cieux dorés. Il est intéressant de voir que sur certaines autres parties de la planète, on parle non pas d'un ailleurs, mais de réincarnation. Et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve justement dans le côté individuel, de nouveau. On y a un temps d'arrêt, et puis tu vas te réincarner en fourmi. Dommage. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très occidental, finalement, dans l'idée de l'apocalypse, quoi, dans l'idée d'une fin générale. Ce qui est intéressant aussi, tout à l'heure, vous parliez de plusieurs fins du monde différentes. La fin du monde pour cette pauvre famille d'insectes là, endémique, qui vivait sur son plateau au Brésil ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Derrière ça, j'aurais tendance à ramener ce que nos médias aiment bien nous seriner tous les jours, ce qui est de la biodiversité, hein, je crois que ça, vous entendez ces termes-là assez souvent. Eh bien, je mettrais pas mal ça en parallèle avec aussi le fameux concept de mondialisation. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est il faut à tout prix protéger toute la vie qu'il peut y avoir sur Terre. Puis la mondialisation, c'était un terme au départ très très positif, hein. Et puis c'est devenu quelque chose qui devient petit à petit là réellement péjoratif. Et peut-être qu'on pourrait mettre en opposition ces deux termes aujourd'hui, quoi, finalement. Sans parler de politique, hein, mais du point de vue réellement intellectuel, de voir qu'est-ce que ça cache au niveau des concepts à chaque coup. Cette mondialisation aujourd'hui, c'est par exemple l'électricité qui va arriver dans une petite vallée reculée, dans un coin en Corée, une vallée encaissée entre deux montagnes, qui va arriver là et puis qui va donner quoi à cette société qui vivait depuis des centaines d'années sans électricité ? Qui va leur donner la fin de leur société. Ils vont petit à petit rentrer dans une modernité et leur tradition, il faudra bien qu'ils s'adaptent pour les garder. Leur mode de vie, il faudra bien qu'ils s'adaptent. Parce que l'électricité va amener quoi ? Va amener, bien sûr, la télévision, la radio, mais les machines à laver, etc. Voilà.
Camille.
Pour rebondir sur cette idée de mondialisation, justement, je pense qu'il y a on parlait du recentrage sur l'individu. Je pense que dans les histoires de fin du monde, donc post-apocalyptique, telles qu'on les conçoit maintenant, telles qu'on les lit maintenant, on peut penser effectivement au fléau de King. Je pense par exemple à la bande dessinée The Walking Dead. Il y a quelque chose de très fort, c'est que non seulement, bon, dans The Walking Dead, les zombies ne sont vraiment qu'un prétexte à une exploration de la violence chez l'homme, et c'est vraiment, on revient à l'individu et à comment l'individu se construit lui-même par rapport aux autres, comment conserver ou non des liens. Est-ce qu'on veut avoir des liens ou pas ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des liens ? Je pense que c'est un thème important dans le sens où on se retrouve dans une société où on n'a plus de moyens de communication, il n'y a plus d'internet, on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien. On est quelque part dans un retour un peu à un état des choses un peu primitif quelque part, où on est vraiment obligé de réduire l'échelle en fait. C'est une réduction d'échelle de la communauté, des rapports humains, etc. Et c'est ça qui touche vraiment, je pense quelque chose de sensible dans notre société actuelle, c'est que on est dans une société de la démesure des moyens de communication, de tout est possible, tout va vite, tout, etc. Là, mettons, dans The Walking Dead, quand ils doivent décider d'aller à un endroit, bah, ça leur demande beaucoup de temps, à pied, il faut marcher, ou alors s'emmerder, aller chercher de l'essence, etc. Il y a un rapport un peu plus concret, un peu plus humain au temps et quelque part au travail peut-être aussi, je pense, à l'activité physique, et qu'on a tendance à perdre de vue, je pense, sans vouloir faire de politique un peu démagogique, à perdre de vue actuellement, quoi. Je pense que c'est ça qui touche une corde sensible.
Laurent, toi qui est un observateur et aussi un historien en termes de science-fiction, est-ce que t'as...
Ouais, pas du tout, hein, mais... Tu es lecteur, c'est tout.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus d'histoires de fin du monde maintenant que par rapport, tu parlais de Jack Spitz, par rapport à des décennies précédentes?
Il y a eu une grande période, enfin il y a eu deux périodes, c'est l'entre-deux-guerres en Europe, avec des récits surtout britanniques et français, comme par hasard, et puis dans les années 50, surtout des récits américains. Et maintenant, je ne sais pas, en fait, il faudrait demander aux vrais spécialistes, en fait, sur le truc. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je plussois complètement avec ton analyse qu'aucune fin du monde n'est idéologiquement neutre. Quand on traite la fin du monde et des humains qui se trouvent à la fin du monde, il y a plein d'attitudes possibles, en fait. Effectivement, une fin du monde, c'est forcément religieux. C'est forcément un thème religieux. Il y a quelque chose de fondamentaliste dans la fin du monde, dans le sens, on revient aux fondamentaux, justement, qui est, on débarrasse l'humain de cette société pourrie qui nous empêche de machin, et on essaie de voir si derrière l'humain, si on peut lui refaire confiance. Et un auteur chrétien fondamentaliste qui était C.S. Lewis, pour lui, c'était clair, l'humain est mauvais, il crée une apocalypse nucléaire, le monde repart en arrière de 2000 ans, il reconstitue une nouvelle société, une nouvelle civilisation qui acquiert à nouveau le pouvoir de s'auto-détruire et qui le fait. Donc pour un auteur pessimiste, c'est clair que l'humain, il est mauvais, donc de toute façon, il est voué à sa propre destruction. Si c'est pas Dieu qui le fait, c'est l'homme. Mon adolescence, elle a été baignée dans des récits à la Mad Max, qui est l'essence de l'ultralibéralisme, quelque part. C'est l'humain, de toute façon, est un être avide. Vous le mettez en face de ressources à s'approprier, il écrasera tout le monde pour arriver à ses fins, et voilà quoi. Finalement, il mérite pas de vivre. Et c'est une idéologie, ça. Et au final, ça a été intéressant de montrer. Enfin, quand il y a eu Katrina, la tornade qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, etc. Ça a été intéressant la façon dont les médias ont traité cette catastrophe. Il y a eu des trucs du genre Fox News qui n'ont fait que montrer des pillages de magasins et des choses comme ça. Et ça reflétait leur propre image de l'homme, finalement, qui était de toute façon, vous permettez aux pauvres, vous créez le chaos, voilà, les pauvres vont vous envahir et vont vous tuer, quoi. Et puis il y a eu la réalité qui a été qu'il y a eu une grande fraternité, qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés de tous les États-Unis, qui ont compris leur voiture, et puis qui sont allés amener de l'eau aux gens, et des Pékin moyens, quoi, vraiment, des gens comme vous et moi, qui ont parcouru des fois 600 kilomètres, qui ont acheté de l'eau au supermarché, les amener, quoi. Et ça, ça intéressait pas Fox News. Ce type de... Alors effectivement, il y a eu des pillages, mais il y a eu aussi des trucs comme ça. Et Katrina, c'est une bonne image d'une fin du monde. On a eu la fin d'une ville, enfin la fin d'une région, et en réalité, on a eu plein de comportements différents. La SF, elle retraduit ça. Je me rappelle d'avoir vu un film de SF des années 50, comme il y en avait plein, des petites séries B à l'époque, il y en a eu des milliers, quoi, et qui montrait une apocalypse nucléaire. Et puis des gens qui sont jetés sur la route, et ça ne montrait que des bêtes sauvages, justement. Et on était dans cette idée paranoïaque de l'homme qui n'est pas neutre, qui est une... voilà. Et donc, le thème de l'apocalypse, c'est aussi une manière de... Voilà, je vous présente l'homme tel que je me le représente, en fait.
Vincent ?
Ouais, j'aimerais réagir à ça, parce que dans un sens, oui, c'est un motif religieux dans la mesure où le mythe, le mot lui-même, apocalypse, c'est un mot, sauf erreur de ma part, je ne suis pas helléniste, mais je crois que ça vient du grec et ça signifie la révélation.
Et c'est pas négatif à la base, hein, d'ailleurs.
Non, et il y a cette idée de révéler l'humain et la société à travers cette destruction. Mais je crois que c'est un motif, au fond, qui est peut-être plus ancien, dans la mesure où des mythes de déluge, de destruction, de cité, on en a avant l'ère chrétienne. Et un peu partout. Voilà, donc au fond, c'est normal qu'un événement de grande importance, de type raz-de-marée, etc., soit réinterprété de manière religieuse. Ça devient des matrices de récits. On est dans un univers presque mythologique. Et j'ai envie de le dissocier un peu à ce moment-là du religieux, en tout cas dans ma manière de travailler. C'est plus un mécanisme, un prétexte, et même si c'est un prétexte fort et qui est chargé poétiquement, et qui fait sens, mais qui n'est pas forcément chargé d'une idéologie. Au fond, je crois que chacun pourrait faire à sa sauce avec le même motif.
Camille ?
Tu parles des mythes de déluge. C'est intéressant de voir que dans les textes judéo-chrétiens, dans l'Ancien, alors je ne suis pas un expert, mais je crois que c'est dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse de toute manière. Non, je ne sais plus, bref. Mais il y a un mythe de déluge, d'abord, un recommencement et un jugement dernier. À la fin, pour le coup, ça s'arrête. Enfin, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que c'est quelque chose qui est, il me semble, très judéo-chrétien et très occidental, du coup, de penser qu'à la fin, quelque chose peut s'arrêter complètement. Et là où tu disais que c'était une expérience religieuse, je pense qu'à partir du moment où on va plus loin, on sort du carcan religieux judéo-chrétien qui nous constitue quelque part en tant que français occidental. Si on dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose derrière.
Par rapport à un texte biblique ou autre. C'est que j'entendais ça comme phénomène psychique plus que relié à une religion ou à telle religion ou à telle autre. C'est quelque chose qui est, je veux dire, c'est quelque chose qui échappe à l'histoire, donc mythique si tu préfères, plutôt que religieux.
Léo.
Non, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, c'est qu'il y a aussi un truc qui est assez amusant avec la fin du monde, c'est qu'il y a une impatience de la fin du monde, il y a un désir de fin du monde qui est alors qui est sans doute très culturel et qui, à mon avis, est vraiment lié à une vision du temps linéaire, quoi, où au commencement, Dieu crée le monde et on avance vers la fin et on est toujours plus près de la fin, hein, quelle que soit l'époque de la civilisation, on est toujours vraiment près de la fin. Et il y a à la fois une crainte, on a cette espèce de... Ouais, parce que c'est affreux, enfin, à la fin du monde, mais il y a en même temps cette impatience de qu'il se passe un truc et c'est des sentiments... Enfin, je pense qu'ils sont produits aussi en nous en tant qu'individus avec des événements comme le 11 septembre ou des choses comme ça où à la fois il y a une espèce d'horreur devant ce qui se produit et en même temps il y a ça crée une excitation. Enfin, quand Fukushima pète, les genre 40 ans de cinéma japonais avec des cataclysmes nucléaires qui deviennent réels d'un coup et il y a un côté je pense qu'il y a une aspiration à la fin du monde et alors après il y a des choses idéologiques, il y a l'aspiration misanthrope où voilà, on déteste les gens, on déteste la société. Enfin, voilà, ce que tu disais, ça m'a fait repenser à Ravage de Barjavel, qui est un exemple de fin du monde et pour attester des thèses antiprogressistes, en fait, où il faut, en réalité, il dit que le progrès nous a amené là où on est, il faut arrêter.
Est-ce que c'est plaisant d'écrire une fin du monde ?
Oui. Oui, parce que, juste pour appuyer... C'est justement un peu cet esprit survivaliste, cet esprit justement se projeter, cette envie de dire oui, je serai le dernier, il n'y a que moi qui pourrais y arriver dans un monde dévasté, alors que pas du tout, on serait les premiers à mourir. Et les premiers... Oui, voilà, c'est ça, c'est dire qu'on peut y arriver. Quoi.
Oui, moi je trouve ça vraiment rigolo. En fait, comme tu disais, non mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours... finalement l'émanation d'un ressenti personnel. En tant qu'auteur, toutes ces choses-là sont des mécaniques, évidemment, comme tu disais aussi, où l'un dans l'autre, ce qui nous intéresse, c'est de produire du drame, hein, de produire de l'histoire et de faire avancer des personnages là-dedans, quoi. Et ma foi, je sais pas vous, quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit, moi, j'adorais faire des constructions de Lego, bon, bref. Et après, effectivement, tout ravager, quoi. Mince, ça sert à rien de les construire si c'est pour les laisser après sur une étagère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a effectivement, en tant qu'auteur, un grand intérêt à imaginer des choses, à produire des univers, mais on a aussi et des fantasmes et... Un moteur d'écriture qui est d'aller vers quelque chose qui est détruit, qui va être détruit ou qui est déjà détruit pour faire encore des nouveaux trucs derrière. C'est ça qui est fun avec la SF.
Hein. Oui, tant Camille voulait.
Moi, je trouve ça très ludique aussi parce que je pense que c'est vraiment une manière de justifier d'une liberté totale en fait. On dit, bon bah. on remontre aux gens qu'on va créer quelque chose de nouveau en disant bon bah c'est cassé, c'est l'expérience du et maintenant total en fait. On se dit maintenant bon bah qu'est-ce qui va se passer, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. C'est vraiment c'est une manière de doubler ce sentiment de liberté qu'on peut avoir en écrivant, en inventant des trucs, même totalement improbables.
Vincent, tu voulais dire un mot ?
Je réalise qu'il y a, il y a quelque chose de fascinant dans ce qu'elle dit. C'est le, au fond, on parle de mythe, de, ça devient une espèce de matrice de récit de la fin du monde. Et je réalise que bon, ces prises de parole qu'on a à l'écrit, à l'oral maintenant, mais ça fait des milliers d'années que les gens les ont, puis les mecs qui sont les auteurs des premiers textes de la Bible ou bien du récit d'Utnapishtim à l'époque babylonienne, bah, c'était des mecs comme nous, quoi. Ils ont écrit leur fiction, après ils y croyaient plus ou moins, la société leur a donné plus ou moins de valeur, mais on est toujours dans les récits, et ces récits, on en a une mémoire. Et ce qui est intéressant, il y a une espèce de mise en abîme dans la fin du monde, où la mémoire est toujours là, préservée, on la réfléchit. Et c'est une mémoire qui ne cesse de se dire et de s'oublier. Et il y a des couches de mémoire. C'est pour ça que peut-être tu pourrais aussi nous parler de Memoria, parce qu'il y a cette idée aussi de mémoire qu'on efface, qu'on ramène, et dont il reste des morceaux plus résistants. Un petit peu comme un immeuble qui ne s'est pas complètement effondré, qui est encore dans la jungle, recouvert de lianes. Et ça, c'est un souvenir qui a résisté au passage du temps. Et au fond, c'est la prise même de parole qui peut être celle d'un monde perdu. Et ça me fascine. Quand on retrouve un papyrus à moitié cramé dans une villa à Pompéi ou à Herculanum, et on a une parole perdue, on a tout à coup un fragment d'un monde qui revient, et c'est même presque plus important pour moi. Et c'était une des tentatives de Cygnis aussi, et c'était de retrouver la parole perdue, ou de réinventer une parole perdue. Un monde perdu, c'est aussi une parole perdue. Des milliers de gens qui ont écrit et qui ont pensé... Et dont il ne reste pas grand chose. Et donc, à ce titre, dans Memoria, ton bouquin, il y avait aussi ce personnage qui traverse des personas et qui garde des souvenirs de référence.
Je ne me rappelle plus trop de monsieur.
Sale bête.
Non, j'ai du mal à parler de mes bouquins. Non, mais c'est vrai, une fois qu'ils sont terminés, je suis dans le prochain. oui, en fait, c'est un personnage qui est immortel et donc qui représente une sorte d'îlot dans le temps, finalement. Pétrifié dans le temps, et donc c'est une autre forme de solitude aussi, comme on en trouve dans les fins du monde. Mais voilà quoi, je crois que ça on est loin du sujet en même temps.
Jérémy,
juste pour appuyer dans Malville de Robert Merle, très bon bouquin. Justement, je crois que j'ai le souvenir où justement il essaye de conserver des livres justement pour le futur, pour les personnes qui va laisser derrière. Enfin. C'est justement
c'est les hommes livres aussi de Fahrenheit 451. Ouais.
Mais où tout simplement la machine à explorer le temps de Wells, c'est-à-dire à l'origine de la SF, il y a ce thème-là de faire perdurer le savoir.
Léo. Moi, je vais bien continuer le name-dropping sur les bouquins de fin du monde, parce qu'il y en a un que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que je trouve vraiment remarquable, qui est le bouquin de Céline Mina. Le dernier monde qui s'est fait assez. Qui a une assez mauvaise réputation dans notre petit milieu. Et je sais absolument pas pourquoi d'ailleurs, parce que je pense que c'est vraiment un livre exceptionnel. Et en fait, il y a cette idée du. Le dernier homme, une de ses tentations, c'est de laisser une trace, en fait. Et donc, il écrit ce livre qu'on est en train de lire, quoi. Et en fait, petit à petit, il se rend compte que, enfin voilà, que la fin du monde, quand on est le dernier homme et que c'est attesté, en fait, écrire un livre, ça sert absolument à rien. Et du coup, ça aussi, ce rapport à la littérature, c'est que si on écrit des histoires qui se passent après la fin du monde, c'est qu'on pense que le monde n'est pas terminé et qu'on a encore des choses à dire sur le.
Oui, et c'est une hypothèse, qui est souvent drôle, sous la plume de Frédéric Braun ou de Shekley, c'est drôle, quoi. Je me rappelle, il y avait une histoire, je crois que c'est de Braun aussi, qui est où il imagine que il y a le dernier homme, et qui rencontre la dernière femme, et sauf qu'il lui plaît pas du tout. Donc ils se mettent en ménage pendant quelques semaines, et c'est une marâtre insupportable. Donc il finit par fuir. La dernière femme, parce qu'elle veut absolument perpétuer la race. Mais lui, ça lui plaît pas du tout. Il préfère la fin de l'humanité à scoltiner cette mégère. Et en fait, il a et la fin, c'est En fait, il écoutait. Ah oui, parce qu'en fait, il l'a repéré par le téléphone. C'est-à-dire qu'il a, il envoyait des coups de téléphone à droite, à gauche, dans le vide. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui répond. Et en fait, c'est cette femme-là.
Et c'était pas une nouvelle de Ray Bradbury ?
Ou Ray Bradbury peut-être. Et à la fin. C'est quand il entendait le téléphone sonner, il ne décrochait pas.
il y a une histoire un peu dans le même genre. C'est une série de bande dessinée américaine dont l'auteur m'échappe complètement là. Il y a tout de suite qui s'appelle Why the Last Man, Why la lettre Y, ouais. qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre pour de vrai, mais en fait une maladie qui est expliquée, mais je ne sais plus vraiment pourquoi, a tué tous les hommes sur Terre sauf lui. Donc il se retrouve quelque part courtisé par toutes les femmes. Alors il y en a qui veulent le tuer, il y en a qui veulent reconstruire. Et donc c'est assez marrant aussi de voir la survivance de l'espèce peut pas être assurée sans lui, mais en même temps la société peut continuer pendant un temps sans lui. Donc il y a des thématiques assez sympas à voir de ce côté-là.
Il y a l'idée développée dans La Mort Blanche de Herbert qui décrit alors la genèse d'une fin du monde par un virus qui ne s'attaque qu'aux hommes et qui éradique. La fin du livre n'en est pas là, mais on sait que tous les hommes vont y passer. Quoi.
Alors,
c'est un bouquin assez terrifiant.
C'est la fin du monde, mais on va quand même prendre 5 minutes pour les questions. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ? Profitez-en avant que ce soit terminé. Est-ce qu'on a un micro Oui, il y a un micro. Relevez la main ceux qui souhaitent poser des questions, madame, là-bas.
Merci. C'est juste, si j'ai bien compris, je me trompe peut-être, mais dans vos livres que vous avez cités, là, à chaque fois, c'était un personnage masculin qui survit. Je voudrais juste savoir si c'est parce que pour vous, c'était plus facile de projeter des sentiments dans un personnage masculin, ou si pour vous, c'est vraiment un choix. Un personnage féminin ne peut pas survivre à la fin du monde, et c'est forcément un personnage masculin.
Ah oui, oui, c'est évident qu'une femme ne peut pas survivre. Non, mais...
De toute manière, tous les auteurs de science-fiction sont machistes, il faut le savoir.
Ah bah, c'est très clair. Non, pour ma part, c'est très clair qu'il y a une grande partie de moi que j'ai projetée dans le personnage. Et ma foi, j'aurais dû faire une femme... J'aurais eu un petit peu de mal. Ceci dit, la prochaine histoire qui est en préparation, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 21 ans, et c'est l'histoire de sa propre apocalypse personnelle. Alors, pourquoi pas ?
Oui, c'est un peu la même réponse. Comme j'ai investi des thématiques personnelles aussi, je pense que j'aurais plus de mal à m'identifier à une femme. Et par ailleurs, dans Mimosa, qui sort en février, le personnage principal est une femme. Donc,
vous devriez vous en prendre aux organisateurs de la table ronde qui n'ont pas invité de filles ici, qui auraient peut-être pu en parler.
Est-ce que...
Moi, j'ai pas mieux que les camarades là. Bon, après, il y a des personnages féminins dans mon livre aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est plus... Enfin, quand on est un garçon, c'est plus facile de s'identifier à un garçon quand on l'écrit, je pense, bêtement.
Est-ce que j'arrive pas à dessiner les femmes, en fait. Non, sinon, le personnage, l'homme, recueille une petite fille. Donc, il y a quand même un peu...
Oui. Léo ?
Non, c'est bizarre que tu ne saches pas dessiner les femmes, parce que je croyais que tous les dessinateurs de BD, en fait, c'était parce qu'ils dessinaient des filles toutes nues. Non, je voulais juste... Pardon, mais sur l'idée d'une femme qui survit à l'apocalypse, c'est assez intéressant pour le dernier bouquin que j'ai cité, qui est le bouquin de Céline Minard, donc, qui est une écrivain femme, et qui en plus est assez agressive dans sa défense du féminisme. Et en fait, elle le justifie par un truc qui, à mon avis, est assez intéressant dans la perspective de la fin du monde, c'est qu'un homme seul ne peut pas se reproduire. Et une femme seule, avec les moyens techniques qu'on a, si le monde n'est pas détruit, en fait, à partir de maintenant, on est aussi arrivé dans un monde où une femme n'a pas besoin d'homme si les structures sont en place et qu'elle a la compétence technique de le faire, elle peut relancer l'humanité, ce qui me paraît être assez intéressant aussi comme...
Juste, il y a une BD qui existe qui s'appelle La Survivante, où c'est une femme et qui est entourée de robots et qui est la dernière femme sur Terre. Et donc ça existe, ça dépend des gens et des thématiques.
Il y a un bouquin de Pamela Sargent là-dessus, justement, sur une société devenue entièrement féminine parce que justement les femmes n'ont plus besoin de l'homme pour se reproduire et les hommes se sont entretués. Donc.
On a le temps peut-être pour une dernière question.
En même temps, c'est vrai qu'on est bon qu'à ça, s'entretuer. Hein.
Ouais, c'est pas faux.
Alors, j'avais la même question que la précédente questionneuse. Et du coup, il y a un bouquin d'Octavia Butler qui s'appelle La parabole du semeur, où c'est pas la fin de l'humanité, mais c'est la fin d'un monde.
Ouais.
Et c'est une survivante, et qui est une femme et qui est noire aussi. Et c'est assez original parce que ça m'a fait beaucoup bien lire ce bouquin. Parce qu'en général, la fin du monde, enfin, où il y a un homme qui survit, ou des fois qui croise des gens fous, comme l'un d'entre vous parlait. Et il y a plein de viols, et il y a des hommes qui s'approprient des femmes, et ce genre de choses. Et
histoire,
souvent,
hein.
C'est traité par des hommes à la légère. Et chez Octavia Butler, c'est un traité d'une façon où ça a du sens dans l'histoire. Oui, c'est pas juste
les
pour...
Hommes, ouais. Les hommes protégés de Merle, c'est un très bon bouquin sur, oui. Sur le type de justement de où la société a changé de main, justement.
Celui-là est bien aussi. Moi, j'avais aussi une question qui était sur le rapport entre la fin du monde, l'apocalypse et la religion. Un peu, enfin, vous en avez parlé vers la fin de votre discussion, du côté religieux de la fin du monde. Et en fait, un peu plus tôt, vous parliez de l'espoir. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre le fait d'avoir l'espoir pour continuer à vivre quand on est tout seul et le fait d'avoir la foi.
Vous croyez ? Oui, oui.
Enfin, c'est pas forcément une foi dans l'Église catholique ou musulmane ou protestante.
Toutes les religions donnent un espoir d'après la vie. Ça, c'était oui, évidemment. Après, soit on fait un livre religieux, soit on fait un livre sur la fin du monde. C'est pas incompatible, mais enfin, il y a eu un courant d'auteurs, comme tu disais, chrétiens, qui ont travaillé ça, quoi, hein, effectivement.
Mais il y a un auteur complètement. Pardon. Ce sera mon dernier mot d'ailleurs. Il y a un auteur totalement athée, Jean-Pierre Andrevon, qui a écrit des récits de fin du monde qui sont pour moi parmi les plus beaux que j'ai jamais lus. Et ça a été recueilli dans un recueil qui s'appelle Enfin le monde. Et alors celui-là, faut faire la pub hein, parce que c'est un super bouquin.
C'est la fin du monde de cette conférence. Merci à vous. Prochaine conférence avec Francis Valéry tout de suite. Et vous allez pouvoir retrouver les auteurs en dédicace. Merci à tous. Ouais, c'est ça.